RMC. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Eh bien nous voilà, c'est parti, c'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules, on compte sur vous. Je sais que vous êtes prêts au 32-16, prêts à réagir, à débattre jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules.
À côté de toi, maître Sarah Salman, avocate.
C'est elle.
Bonjour à tous, bonjour les GG.
Dans son, dans son uniforme.
Mais alors je précise quand même que j'ai à peu près 40 pantalons noirs, 40 t-shirts blancs et 40 vestes noires.
Ouais,
et j'en tire une avant de venir.
Donc la couleur, c'est pas ton truc?
Non, au moins ça évite de débattre. Si j'arrive en jupe courte et en décolleté, je pense que ça ferait tout un débat.
Ah oui, enfin, c'est un uniforme pour toi en fait.
Non, tu n'as pas compris. C'est une identité visuelle.
Une identité visuelle.
Et tu laves pas, tu jettes.
Jérôme Marty, docteur Marty, médecin généraliste du côté de la Haute-Garonne. Bonjour doc.
Salut à tous.
Et puis à tes côtés, le seul agriculteur, l'agriculteur de Saône-et-Loire connu dans le monde entier grâce au GG, et surtout, Didier Giraud.
Surtout Didier, salut Alain. Une chemise de smoking. Tu sors ce soir?
À l'avance profonde, bonjour.
Mais tu viens comment d'habitude pour que la chemise soit un tel événement?
Je viens toujours en chemise. Mais là, sur mon col cassé, ils ont
tapé un plus que le nœud pape.
Et la cravate.
Ce matin. Non, le nœud pape, là, il manque.
Ouais, oui, le nœud pape avec son.
Est-ce que. Attends, montez un peu le son, s'il vous plaît.
Michel Blanc.
Premier dans tous les sondages.
Michel Blanc.
Je suis
l'acteur.
Il avait
Michel Blanc. Je suis le mec plus ultra.
Le mec plus ultra.
C'est toi, Didier.
Oui, bien sûr. J'ai bien compris.
Mais alors, donc, cette soirée, ce soir, c'est où alors?
Chez Castel.
Ça va se passer dans
l'écurie. Ta femme nous écoute pas. Dis-nous tout.
Ça va passer dans
l'écurie. Ces vaches ont le même uniforme que toi.
Non, mais attends.
Les taches noires et blanches.
J'ai pas de vaches tachées, moi.
Bon. C'est lesquelles, les noirs et blancs, les tachés?
Elles sont comment tes vaches?
Est-ce que tu te présentes au concours avec cette chemise?
Celle-là, non, mais on a l'habitude de présenter les animaux au concours en chemise blanche.
Et c'est quoi le critère? C'est être une grosse vache?
Non.
Pour gagner?
Ouais,
c'est la plus belle, ouais. Ouais, grosse, ça peut rentrer dans les critères de choix, mais c'est la plus belle.
D'accord.
Je crois que tu l'emmènes un jour, Sarah Salman, voir un concours.
Ça paraît intéressant.
Elle va découvrir un autre monde.
Oui.
Bah, et que je t'emmène dans mon
monde. La finale des concours de l'année est jeudi à Moulins.
Bah voilà.
Dans l'Allier.
Oui, la finale des concours Charolais, c'est jeudi à
Moulins. Et toi, t'y es ?
Ah oui.
Tu as présenté qui ?
Non, je présente rien, mais il y a Marguerite. Un de mes achats qui va concourir.
Qu'est-ce que t'as dit, quoi ?
Bah, Marguerite, forcément.
Marguerite,
célèbre. Bon, bah tiens, justement, parce que les vaches, à un moment, elles terminent toujours chez le boucher charcutier. Voilà, donc.
Barbara, si tu nous entends.
Autant parler d'une profession qui est en danger. 75% des artisans bouchers ont vu leur facture d'énergie augmenter de plus 50% en l'espace de 2 ans. Alors, il y a la colère des artisans bouchers charcutiers. Rejoint par les boulangers qui disent « Mais attendez, nous aussi, on a notre facture. » Alors, autant les laisser parler et qu'ils expliquent.
RMC, les grandes gueules.
On a des factures, moi, elle va être multipliée par 4. Actuellement, je paye 1 000 euros, je passe à 4 000 en janvier. Je ne pourrais pas payer, c'est la fin. C'est 80% des boulangers qui sont touchés puisqu'ils ne bénéficient pas du bouclier tarifaire puisqu'on est ce qu'on appelle des gros consommateurs. Donc aujourd'hui, il y en a marre, mais il y en a franchement ras-le-bol. Donc on dit stop et on va manifester. Aujourd'hui, c'est les bouchers, ils ont notre entier soutien. Mais moi, j'invite tous les métiers de l'artisanat, tous les métiers concernés par cette hausse à venir manifester aussi avec nous le 23 janvier. Il faut qu'on y soit tous devant le ministère des Finances. Ça ne peut pas durer comme ça. On ne fermera pas. On a des métiers d'amour, des métiers de passion. On dit stop.
Voilà, vous avez entendu aujourd'hui. En fait, les actions et tout le monde va se regrouper, vous avez compris. Aujourd'hui, les bouchers charcutiers, bientôt les boulangers. Et c'est la colère des artisans qui est en train de monter.
Oui, et ce sont des professions bouchers, charcutiers, boulangers, poissonniers qui n'ont pas l'habitude d'aller dans la rue. On les voit pas tous les 4 matins défiler parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps. Ils sont dans leur magasin, dans leur commerce. Donc c'est vrai que c'est un événement lorsque, par exemple, tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, il y aura des artisans bouchers, charcutiers qui non seulement sont inquiets face aux conséquences de la crise de l'énergie, mais qui voudraient un système d'aide plus limpide. Parce qu'effectivement, il y a déjà un système qui a été mis en place par le gouvernement. C'est un bouclier bouclier tarifaire depuis le mois de novembre, donc récemment, pour les entreprises de moins de 10 salariés avec 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et ayant un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kilowatts. Et c'est cette barrière, ce seuil qui a été fixé qui ne convient pas parce qu'en fait, près de 30% des entreprises sont au-dessus de cette limite et donc ne bénéficient pas de ce bouclier tarifaire. C'est ce que a dit ce boulanger Frédéric qu'on a entendu dans les Alpes-Maritimes, qui est un fidèle aussi des grandes gueules. Il y a une hausse de 20 à 40% des prix de matières premières qui s'ajoute donc à la hausse du coût de l'électricité. Tu sais mieux que moi, Didier, par exemple, que la grippe aviaire a fait beaucoup de mal. La volaille a pris 40%, nous dit-on. Le bœuf aussi augmente. Ce sont des professions qui sont en danger, qui se demandent comment vont-elles passer l'hiver.
Je pense que leur colère est légitime. Quand on dit il y a un bouclier tarifaire pour les gens qui ont un compteur en dessus de 36 kilowatts, c'est rien du tout. C'est fait pour faire tourner la télé, pour regarder BFM. Ça sert qu'à ça, quoi. Quand tu commences d'avoir deux chambres froides, t'es à 50 kilowattheures. Partir de la deuxième chambre froide, il te faut un compteur à 50 kilowattheures. Quand j'écoute les chiffres qu'il y aurait que 5% des bouchers, des boulangers concernés, je sais pas comment ils font leurs calculs. À mon avis, dans une boulangerie où il y a un four, une chambre froide qui tourne à l'électricité, dans une boucherie où il y a deux ou trois chambres froides, des banques réfrigérées, globalement, dans les métiers de bouche, dans l'artisanat de bouche, c'est des gens qui utilisent beaucoup le froid. Mais donc, qui dit froid, dit frigo, dit électricité.
Il faut un quoi qu'il en coûte pour toutes ces professions.
J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que la hausse des matières premières.
T'en sais rien. Si, eux, ils disent, on va crever.
Ouais, non, mais.
On va crever, on n'arrivera pas à payer, on va licencier, on va
faire une solution. Non, mais attends, je vais aller plus loin. Est-ce que le quoi qu'il en coûte est la solution? Est-ce qu'il faut que l'État paye de l'électricité à ces gens-là, j'en suis pas sûr. Moi, je suis désolé.
On a bien payé le kilowattheure
aujourd'hui, ça coûte pas plus cher à produire que hier. Pourquoi on dénonce les contrats d'électricité? Pourquoi les boîtes qui fournissent de l'électricité sont en train de multiplier par 10 le prix du kilowattheure? J'y vois aucune raison. Voilà, c'est là-dessus qu'on attend l'État. Peut-être que l'État, il faut qu'elle mette les mains dans le moteur et puis elle dise à EDF et aux autres là,
calme-toi
sur le prix, quoi. Voilà, c'est là parce que faire des chèques à tout le monde, je suis pas sûr que ça résolve le problème durablement. Et moi, je vois pas pourquoi l'électricité est multipliée par 10 du jour au lendemain.
Voilà. Monsieur Jérôme.
À mon sens, l'État, il est obligé de payer. Parce qu'il est responsable de ce qu'on vit. Je veux dire, si l'État n'avait pas complètement lâché les centrales nucléaires, si l'État n'avait pas laissé les centrales nucléaires s'esquinter et les avait entretenues comme il le fallait, on n'aurait pas ce choc tarifaire aussi, quoi. Alors certes, il y a la situation internationale.
Il y a la guerre en Ukraine.
Mais il y a aussi une France qui se targuait d'être indépendante sur le plan électrique, qui ne l'est plus aujourd'hui parce qu'elle a un parc de centrales nucléaires qui est en rideau pour plus de 50% d'entre elles. Et ça, c'est en grande partie dû à l'impéricide des politiques qui n'ont pas su du tout entretenir cela. En donnant des gages aux écologistes et en disant oh non mais le nucléaire c'est dangereux, on va faire des éoliennes. Non. Voilà où on en est aujourd'hui. Multiplié par 4 ou par 5, des entreprises mises en danger, des gens qui, comme on nous l'a dit là, vont mourir économiquement, et nous avec. Parce que quand tu n'as plus de boucher, tu n'as plus de boulanger, quand tu as des difficultés, les prix vont augmenter, et des centaines de milliers de gens. Moi, ce que ça m'inspire, c'est encore une fois le décalage qu'il peut y avoir entre les gens qui sont en responsabilité politique et la vraie vie. Ils ne connaissent pas la vraie vie, on a l'impression, ces gens-là. Ils ne savent pas quelles sont les difficultés des artisans, des commerçants, des libéraux, des entreprises. Tiens, tu vas avoir une grève pareille des médecins libéraux. Oui. C'est aussi monté sur la même chose. Il n'y a pas d'indexation sur le coût de la vie. On a des tarifs au plus bas de la moyenne européenne. On a envie que les médecins ferment, on a envie que des cliniques ferment, etc. C'est pareil, hein. On est dans un état d'urgence, là. Donc il va falloir peut-être que l'État, comme le dit Didier très justement, se retrousse les manches et agisse.
Je pense que Maître la guerre Salman. En Ukraine a bon dos, parce que si on n'avait pas abandonné le nucléaire sous la pression des écolos hystériques, on n'en serait peut-être pas là. Donc, il faut voir aussi le pouvoir d'achat. Les Français sont à bout de souffle. Et là, je le vois, moi, j'achète. Alors, évidemment, on parle de Paris, on parle du 7e arrondissement. Je ne sais pas si c'est pareil. Je pense que non. Je paye ma baguette 1,20€. Et il y a quelques années, je la payais 90 centimes. Donc, on voit bien que même pour les Français, il y a un problème de pouvoir d'achat. Après, pour aujourd'hui, c'est entre 11h et 13h. Bon, je te le dis, on a parlé, Jérôme, avant l'émission. Il y aura un problème pour la rupture de la chaîne du froid aujourd'hui. Hein, parce qu'il coupe entre 11h et 13h. Donc, on va avoir une difficulté.
Docteur Salman nous parle.
C'était pas forcément une bonne chose.
Très honnêtement, s'il laisse les fermer les
après, il y a aussi quand même le prix de la matière première qui a augmenté.
Bien sûr.
Oui, mais je parlais pour la grève d'aujourd'hui.
Ça, c'est facile à expliquer. Je l'ai déjà dit autour de cette table. À force de faire tout et rien avec l'agriculture, de dégoûter les gens de faire ce métier, on est sur des pénuries de matières premières. Enfin, moi, je suis d'accord avec Sarah. L'Ukraine a bon dos, quoi. Aujourd'hui, en France, on était autosuffisant dans 70% des productions primaires il y a 20 ans. On l'est plus aujourd'hui. On l'est plus en bœuf, on l'est plus en viande de poulet. On est descendu à 50%. En viande de volaille, on est descendu à 50%.
Quand est-ce qu'on était autosuffisant?
Eh ben, il y a entre 10 et 15 ans. Et on était autosuffisant dans toutes les viandes. Ben, aujourd'hui, il y a plus d'agriculteurs en France. Ça t'a pas échappé que le nombre des agriculteurs y baisse, que grosso modo, les filières d'élevage sont des filières où il y a de la désaffection, où les gens ne veulent plus travailler parce que c'est de l'astreinte, c'est des revenus plus bas.
On travaille à perte ou pas quand on est agriculteur?
En nombre?
Ouais.
Ah ben, le nombre d'agriculteurs, il est en chute libre depuis 1950.
Je voudrais comprendre, et je vais donner la parole à Gérald de Haute-Garonne dans un instant. Ah. Il est boulanger. Si on veut sauver la profession, c'est sur quel levier on agit là aujourd'hui? Est-ce que l'État s'attaque à ceux qui deal le prix de l'énergie, ils disent écoute, au boucher charcutier, leur dit écoutez, on va pas vous faire de chèque, on va voir ceux qui vous augmentent les tarifs.
C'est plutôt une solution plus durable que le chèque, quoi. Parce que je suis d'accord avec Sarah, que se serait-il passé sans la guerre en Ukraine? Parce que la crise de l'énergie, c'est d'abord et avant tout la fermeture des centrales, quoi. Sans la guerre en Ukraine, on aurait quand même des coupures 7 ans.
C'est la même chose, c'est un prétexte, mais pour ne pas assumer leurs actes, ils disent c'est la crise en Ukraine, mais ce serait exactement la même chose.
Et du coup, les opérateurs en profitent, et moi, j'attends de l'État qu'il ait une vraie action vis-à-vis des opérateurs d'énergie en leur disant, allez, c'est bon.
Et c'est facile d'agir sur EDF qui est nationalisé, en fait.
Donc, c'est l'État qui spécule.
Oui, bien sûr.
Nous sommes avec Gérald. Oui. Gérald, bonjour.
Et bonjour.
Boulanger bonjour, du côté de la Haute-Garonne, peut-être pas très loin de chez le camarade Marty, alors, je sais pas.
Oui, je pense. Je suis sur, à côté de Toulouse, quoi.
Et mon cher Gérald, alors est-ce que votre facture a largement augmenté? Est-ce que vous êtes solidaire des bouchers charcutiers aujourd'hui?
Totalement, là. Moi, ma facture, elle va. En décembre, j'ai eu les tarifs. Elle va multiplier par 8, voire par 10. Donc, moi, si vous voulez, l'année dernière, je payais 17 000 euros d'électricité à l'année. Bon, après, en boulangerie, on consomme beaucoup. Et là, l'année prochaine, j'ai calculé avec le mec de DF, on va arriver à 132 000 euros, ce qui est quasiment impossible pour moi.
Est-ce que vous bénéficiez de ce fameux bouclier tarifaire?
Et non, j'en bénéficie pas parce que moi, je suis un tarif jaune parce que j'ai un four qui, à lui tout seul, il prend 50 kWh. Voilà. Donc, je peux pas en bénéficier, quoi.
Donc le système d'aide, effectivement, n'est pas formaté pour les boulangers.
Ah mais pas du tout. Pour les toutes petites structures, à la rigueur, quelqu'un peut-être s'en tirer avec un tarif bleu, enfin un compteur bleu à 36 kWh, mais après, il peut pas. Tous les autres, on peut pas. C'est sûr qu'il va falloir qu'on oublie de cuire l'après-midi, va falloir
changer. Et vous allez faire comment?
Qu'attendez-vous alors, en fait?
Et moi, j'aimerais que l'État, là vraiment, il fasse quelque chose, mette un bouclier pour nous, ou parce que là, franchement, là, je vais faire comment, je sais pas. En fait, je pense que là, je suis en train de me dire, je vais couler.
C'est que l'État, il a un peu cramé la caisse cette année parce qu'il y a eu un bouclier pour les particuliers, qui va d'ailleurs prendre fin. Alors ici, on va quand même nous subir une augmentation nous particuliers en janvier, mais elle sera moins forte que si on avait laissé le marché faire. Ouais. Il y a une ristourne sur le carburant, c'est 7 milliards d'euros qui ont été dépensés pour baisser le prix du carburant. Donc en fait, l'État a cramé un peu la caisse au moment où peut-être que les vraies difficultés vont commencer avec l'hiver.
Gérald, allez-y.
Moi, il me faut quand même quelque chose parce que là, si vous voulez, au bout de 6 mois.
Et il n'a pas le choix, hein, Gérald.
Dans 6 mois, je suis mort. Il faut que je paye ma facture, mais je ne pourrai plus payer mes.
Vous allez augmenter le prix de la baguette?
Je peux l'augmenter.
Il ne va pas la multiplier par 10, la baguette.
Ouais, voilà,
à la mettre à 5 euros.
Personne ne va acheter une baguette à 10 euros.
Elle est à combien, votre baguette?
Moi, elle est à 1,05 €.
Vous pouvez la mettre à 1,20 €.
Dites-moi, Gérald, à partir de quand, de quelle période vous avez vraiment vu les prix commencer à monter, vous dire là, ça va devenir inquiétant, quoi?
Moi, en fait, j'avais un contrat jusqu'à la fin de l'année avec EDF, j'avais 3 ans, donc là c'est jusqu'en décembre, et à partir de décembre, j'ai reçu un mail il y a un mois pour me dire les nouveaux tarifs. J'ai quand même appelé EDF pour savoir ce que ça allait vraiment faire sur mon sur mon contrat, parce que des fois on parle de tarifs, mais quand j'ai vu les sommes, là j'ai commencé à paniquer un peu quand même. Ouais.
Mmh. Oui, tu m'étonnes.
Donc en fait, c'est le moment où on renouvelle le contrat, donc en fin d'année, que là on se prend en pleine figure une forte augmentation.
Il y a une augmentation, mais multipliée par 10, c'est pas une augmentation.
Mais en plus, ça bouge tout le temps.
C'est un braquage.
Souvenez-vous, la semaine dernière, moi je vous disais. La semaine dernière, je vous disais que pour mon établissement, là où je payais 14, je passais à 58. Depuis, j'ai eu EDF qui m'a dit: ah non, mais on a fait une erreur, en fait c'est 76. Hein? Oui. Voilà, donc de 14, je passe 76.
Mieux fait de te taire.
C'est-à-dire que je passe de 31 000 par an à plus de 200, quoi.
Mais pourquoi t'as parlé?
Tu pourras pas.
Ben non, je pourrais pas.
Non, mais on est comme ça, quoi. Moi, comme j'ai dit au mec d'EDF, j'ai dit, mais vous comprenez bien que c'est impossible que je paye ça. Il me dit, ah oui, mais bon, vous comprenez, nous on augmente en fonction de l'augmentation. Ben ouais, mais moi, je peux pas vendre ma baguette.
C'est parce que eux, ils achètent l'énergie, le prix de l'électricité plus cher, le kilowattheure. En plus, comme c'est toujours, si je ne m'abuse, indexé sur le prix du gaz.
C'est pas ce que fait Emmanuel Macron, parce que ça demande le dossier prioritaire de la France, c'est sortir de ce calcul.
Et il dit, il avait le Qatar, là, pour ça.
Gérald, comment s'appelle votre boulangerie, là, si on veut passer vous voir, où êtes-vous? Précisément.
Moi, c'est à Saint-Hilaire, à côté de Muret, je suis pincé de sucre.
Pincé de sucre, voilà, passez voir l'ami Gérald. C'est un ami
de sucre.
C'est un ami des GG.
Ça pourrait faire le nom d'un dessert, pincé de sucre.
On peut rigoler un peu. Et ils sont bons, vos pains au chocolat, bien sûr?
Alors, chez moi, c'est chocolatine.
Je sais bien.
Ne laisse rien passer, Gérald.
Allez, Gérald, salut, bonne journée à vous. À bientôt dans les GG, à bientôt dans les grandes gueules. La discussion, elle est lancée. Vous avez maintenant à vous de nous rejoindre. Boucher, boulanger, peut-être faites-vous partie des bouchers charcutiers qui aujourd'hui allaient manifester. Et faut nous expliquer, parce que ça change pour vous au quotidien, votre facture d'énergie, les conséquences aussi sur les prix, parce que derrière, c'est le consommateur, c'est nous, les clients, qui venons vous voir, et on dit, dites donc, là, ça a pris quand même, ça a augmenté. Bah, venez en parler en toute franchise avec les grandes gueules, Sarah Salman, Didier Giraud, Jérôme Marty, une avocate, un agriculteur et un... Quand on est médecin, on est un peu boucher charcutier aussi.
C'est ça.
Il est 9h20, vous êtes dans les GG sur RMC, RMC Story.
RMC,
9h30,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Sarah Salman, avocate, Jérôme Marty, médecin généraliste et Didier Giraud. Qui est agriculteur en Saône-et-Loire. On parle de la colère des bouchers charcutiers. C'est rare que de les voir dans la rue. Pourtant, ils vont aujourd'hui manifester. Ils vont manifester devant l'Assemblée nationale. Ils veulent l'aide du gouvernement. Une espèce de quoi qu'il en coûte. Véronique Langlais est présidente du syndicat des bouchers de Paris. Bonjour, madame Langlais.
Bonjour à tous.
Vous allez
Véronique.
Demander quoi précisément?
Bonjour, ça va Véronique, je t'adore.
Ah ben vous connaissez.
Oui.
Oui. Alors, ce que nous demandons, en fait, c'est une écoute de la part du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, il y a 40% des boucheries artisanales qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire, puisqu'ils ont une puissance électrique qui est supérieure à 36 kW. Ça peut mettre en danger certaines entreprises, parce qu'on a des notes qui sont multipliées par 3, par 4, par 7, par 8. C'est monumental. Et pourquoi nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans une manifestation? Tout simplement pour éveiller les consciences. On n'a pas l'habitude de sortir, on est plutôt résilient, on est des chefs d'entreprise, on a des stratégies.
Et oui.
Mais là, si on a un moteur qui casse, si on a un four qui casse, et ben l'entreprise peut casser aussi.
Mais c'est-à-dire qu'il faut un bouclier tarifaire pour tous les bouchers, sans distinction.
En fait, ce que nous aimerions, c'est une équité. Une équité pour les entreprises, comme en Allemagne, où effectivement, il y a eu un palier, un plafond. On aimerait être tous mis à la même enseigne, finalement.
On va vous répondre que c'est beaucoup d'argent. Et puis, combien de temps? Parce que si les prix restent hauts pendant longtemps, comment on fait?
On a quand même eu une inflation considérable. On a eu 12% d'augmentation sur l'ensemble de nos produits qu'on n'a pas du tout répercuté. Entre 0 et 10% ont été répercutés. Nos marges ont déjà baissé. Mmh. On a des salariés qu'on doit payer qui, eux, demandent des augmentations. On est pris en étau. On a quand même été là quand il y a eu le Covid. On n'a rien demandé. On n'a pas pris les PGE. Et on est là aujourd'hui pour éveiller les consciences parce que ce soit du plus petit village à la plus grande ville, on est là souvent, on est les derniers à éteindre la lumière et on n'aimerait pas que cette lumière reste éteinte définitivement.
Vous avez une prévision potentiellement du nombre de bouchers charcutiers qui pourraient mettre la clé sous la porte,
non,
Véronique?
Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore ça, on n'a pas encore cette visibilité puisque je vous rappelle qu'il va y avoir beaucoup de modifications à partir de 2023 puisque beaucoup de contrats s'arrêtent en fin d'année, que là, on a 45 jours pour se définir sur un fournisseur qui nous donne des tarifications parfois ubuesques. Je vais vous donner un exemple concret, le mien. Alors, moi, je paye aujourd'hui 9 centimes du kilowattheure, ce qui est relativement peu. J'ai un collègue qui vient de signer un contrat juste avant, là, à 1,18€ le kilowattheure. Vous voyez la différence ? C'est juste pas possible.
Comment elle expliquait cette différence ?
Elle expliquait, alors j'aimerais bien.
Ça s'appelle une spéculation, 12 fois le prix.
Oui, j'aimerais bien comprendre justement au niveau des fournisseurs, comment ils font leur prix et qu'est-ce qui justifie de telles différences. Alors moi, je suis protégée, puisque j'ai signé un contrat jusqu'en 2024, donc je crois que ma facture va se multiplier par 2, ce qui est jouable.
Ce qui est déjà beaucoup.
Tout le monde ne l'est pas protégé. Donc c'est pour ça que nous sortons aujourd'hui.
Vous avez des contacts avec Bruno Le Maire, avec Bercy ?
Alors oui, justement, à partir de demain, a priori, une délégation sera écoutée au niveau du ministère du Budget. Donc on espère une écoute, mais il est vrai que si on nous écoute, nous, il va falloir écouter aussi les boulangers, les restaurateurs.
Bah, tout le monde.
C'est un combat multiple, en fait. C'est un combat multiple, mais qui est légitime.
C'est pour ça que je crois pas au chèque et au bouclier. Je crois que si l'État veut avoir une vraie action, c'est s'attaquer à découpler le prix de l'électricité qui, elle, n'a pas augmenté à produire du prix du gaz qui, certes, lui, a augmenté à cause de la crise ukrainienne. Je connais pas de boucher.
Ce qu'ont fait les Espagnols,
je connais
exemple.
Pas de boucher qui utilise du gaz de ville, quoi, ou peu.
Si on en a.
Ouais, enfin, pour cuire.
Ouais,
des gens qui font du traiteur pour cuire. Mais le gros de votre facture énergétique, c'est quand même de l'électricité pour faire tout.
Le froid, les fours.
Voilà, bien sûr. Et vous avez répercuté un peu sur ce que vous vendez du coup.
C'est pour ça qu'on risque le péril. Parce que c'est vrai qu'on nous parle de levier avec les augmentations de produits. Mais déjà, il y a une inflation considérable sur tout. On ne peut pas acculer le consommateur d'augmentation, enfin lui faire subir nos augmentations. Ce n'est pas possible puisque lui, chez lui, il les a déjà.
Bien sûr.
Dont notre manifestation du jour.
C'est et tu vas aller à l'Assemblée nationale tout à l'heure ?
Je vais y aller, j'ai une intervention à la mairie de Paris, mais j'y vais juste après.
Et par qui ?
Effectivement.
Vous serez reçu par des députés ou pas, Véronique ?
Alors, je les ai interpellés pour qu'ils soient là, en tous les cas, aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y en aura qui seront là. Malheureusement, ils ont chacun leur activité, mais ça fait une semaine, en fait, que ça a été décidé. Et ça fait une semaine qu'on les interpelle sur ce sujet. Parce que, effectivement, ils ont des circonscriptions où nous sommes présents, partout. Et je pense que c'est leur devoir aussi que de relayer cela.
Merci Véronique.
Véronique Planglet,
présidente.
Merci. Et l'envie de la viande, surtout.
Bah, on ira faire un steak, Véro.
Ne vous inquiétez pas. Merci Véronique Planglet. À bientôt. Bonne manifestation. Gilles, restaurateur du côté de Mougins, dans les Alpes-Maritimes.
Oui,
qui me permet de saluer mon pote Joey, tiens, qui habite dans le coin. Bonjour. Exactement. Gilles.
Oui, bonjour à tous.
Alors, et vous, le restaurateur, que se passe-t-il pour vous, pour la facture ?
Ah, nous, c'est compliqué, mais ça a commencé déjà. Avec le Covid, sortie du Covid, où tous nos employés ont rêvé d'immobilier, de devenir tous des vendeurs de maisons. Donc on a perdu beaucoup de notre personnel, donc on a dû déjà fermer plusieurs jours depuis cette sortie de Covid, et on continue à avoir des fermetures régulières parce qu'on n'a pas de personnel. Donc les fermetures régulières, pas de chiffre d'affaires, bah, le loyer, le crédit, tout ça, bah, lui, il a pas de fermeture journalière, hein. Donc bah, ça continue de tomber, donc on accumule des dettes. Ensuite, vous avez la hausse des matières. Notre steak haché, là, en 3 semaines, il est passé de 70 centimes à 90 centimes. On comprend pas pourquoi. Et la dernière petite goutte d'eau, hein, bah, c'est l'électricité. Et vous voyez, aujourd'hui, on change de fournisseur, on passe de chez Total Energy à EDF. Et là, ils nous font un cadeau quand même, parce qu'on va être multiplié que par 8, alors que sur Total Energy, c'était par 15. Donc, 15. Derrière, pas de bouclier fiscal, rien du tout. On a un compteur jaune, hein, parce qu'on a des pointes à 70-72 kilowatts. Ça devient très compliqué. Donc,
comment allez-vous faire alors, Gilles ? Est-ce que vous pensez que votre
frère, et on en cause, hein, on en cause tous les jours, hein. Tous les jours, on regarde le compte en banque, on le retourne dans tous les sens, voir s'il n'y a pas des centimes qui tombent un petit peu dessus pour aider à payer les factures. Ben, comment on va faire ? Ben, on va pas pouvoir continuer plus loin.
Ben voilà.
Donc là, c'est la goutte d'eau. À chaque fois, on se disait, bon, ça ira mieux. ça ira mieux. La clientèle a envie de revenir, revient. Mais nous, par manque de personnel, malheureusement, les gros jours d'affluence, on est obligé aussi de bloquer l'accès au restaurant, de limiter.
Ça limite votre chiffre d'affaires et votre capacité à payer les dettes en plus.
Exactement. Actuellement, oui, c'est exactement ça. Donc, avec cette hausse qui commence pour nous demain, parce qu'aujourd'hui, on bascule, c'est pas compliqué, c'est la fin.
Mais c'est la fin, ça veut dire quoi, Gilles?
C'est la
fin.
Sous la porte.
C'est la fin, on met la clé sous la porte, c'est terminé.
Ah ouais. Mais comment tu veux faire?
Il n'y a pas de moyen.
Donc, vous arrêtez l'activité.
S'il n'y a pas le choix.
Ouais. Sauf si j'ai un sponsor qui s'appelle RMC, je le mets au-dessus de l'enseigne, moi, avec plaisir.
Ouais. Mais je comprends. Mais
vous savez, on n'a pas beaucoup d'argent non plus.
Je ne peux pas. on ne peut pas. On ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir des factures de 15 000, 18 000, 20 000 euros par mois.
Et je rappellerai quand même qu'il y a des entreprises qui ont décidé de fermer cet hiver. Oui. On invente une nouvelle saison. Des entreprises qui disent nous cet hiver.
Si tu dis à tous les bouchers, tous les boulangers de fermer cet hiver, ça va être compliqué quand même.
Non, mais On peut pas
se permettre, parce que quand vous fermez, votre bailleur, lui, il ferme pas avec vous, hein. Votre banquier ferme pas avec vous.
Ah bah oui, c'est vrai, ça.
Mais bien sûr. Les emprunts continuent, hein.
Les charges, elles courent. Et puis, vous savez, on n'est pas indépendants, hein. Je vais pas citer la marque, hein. Mais on est dans un réseau de franchises.
Ah oui, vous êtes franchisés.
On a aussi des royalties, à ce jour aussi qui vont être en retard. Et d'ailleurs, on va pas avoir de cadeaux non plus, parce que voilà, tout le monde a besoin.
Ouais. Il n'y a pas d'argent magique, comme dit l'autre.
Il n'y a pas. Il y a une omerta dessus. Il y a une omerta. C'est-à-dire que, aux actualités, on n'entend pas parler aux 20h ou très peu, rapidement, comme ça. Vous êtes peut-être les seuls à en parler régulièrement. Comme l'autre jour, la petite dame boulangère qui pleurait parce que, voilà, elle a fermé son.
Vous savez pourquoi on parle moins de vous dans les médias, c'est parce que vous faites moins de bruit, parce que vous ne manifestez jamais, parce que vous êtes moins bruyante que d'autres secteurs professionnels.
Et vous vous plaignez pas.
Parce que j'imagine un restaurateur, il a autre chose à faire que d'aller tous les 4 matins faire grève.
Vous savez, moi, c'est pas compliqué. J'arrive au restaurant, il est 8h30, 9h. Quand j'arrive à rentrer les après-midi pour travailler un petit peu ou juste pour essayer de me poser, mais ça, c'est rare. Sinon, je fais en moyenne 16-17 heures par jour.
Donc vous n'avez pas le temps d'aller manifester, en fait.
Je n'ai pas le temps. J'aimerais aller montrer un petit peu ma colère, plus mon désespoir qu'autre chose, parce que là on marche sur un fil et le fil est en train de se péter, quoi. Mais il y a une omerta qui est faite auprès des médias et malheureusement, oui, on nous entend pas, mais en même temps, vous savez, on a eu quand même un gouvernement qui a été très ingénieux parce que pour nous aider et pour aider le personnel, ne serait-ce qu'à réintégrer un petit peu les travail à pension, hein, qui est la restauration, ils ont dit allez, c'est cadeau, c'est pour nous, on vous supprime les charges sur les pourboires en carte bancaire. Vous vous souvenez?
Oui, je me souviens, bien sûr.
Mais ça fait super, fabuleux. Non, mais ce que vous avez oublié de dire, monsieur les dirigeants, c'est que moi, quand je fais une transaction d'un euro sur mon TPE, mais la banque, ils ne me font pas cadeau de cette transaction. Donc quand j'encaisse un euro en TPE, en CB, pour redonner à mes collaborateurs, mais c'est pas un euro réellement. À chaque fois, je crée un trou dans ma caisse.
Quel est le nom de votre restaurant à Mougins, là?
Je peux pas le citer. On est dans un réseau.
D'accord. Ok. Bon, enfin, dans tous les cas, on vous a écouté, on vous a entendu, Gilles. J'espère que.
C'est intéressant.
Pourrait vous en sortir. Salut Gilles. Merci d'avoir été avec
Merci
nous.
Gilles.
À bientôt dans les GG.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est sa perception. Il a l'impression que nous médias, hein, on parle assez peu de leurs problèmes des bouchers, des boulangers, etc. Et moi, je pense qu'il faut quand même en tenir compte. Tu vois, ce matin, j'entendais beaucoup dans les médias des sujets sur les députés sont trop fatigués.
Moi, sincèrement,
ça me choque. Les députés, sans doute, sont trop fatigués. Ils ont peut-être trop. Il faut peut-être revoir leur façon de travailler, etc. Quand tu vois les boulangers, je veux dire, ça, c'est des métiers où il faut bosser, quoi.
La réalité, c'est qu'on parle beaucoup des fonctionnaires, on parle beaucoup des salariés, mais on parle peu des gens qui emploient, des PME, on parle peu des artisans, on parle peu des agriculteurs, on parle peu des professions libérales, des indépendants en général. Non, mais parce que d'un côté, t'as la puissance des syndicats salariés, même s'ils sont moins puissants qu'avant, mais qui ont leurs entrées, etc. Et puis, tu as toute la partie fonctionnaire où c'est l'État, mais le reste, ils sont abandonnés à leur propre sort, quoi. Et on n'en parle jamais. Alors, c'est eux la richesse de la France.
C'est les...
C'est eux qui emploient.
Rien n'empêche.
C'est eux qui font tourner. Non, mais.
Rien n'empêche les rédactions de s'y intéresser.
C'est eux qui font tourner le pays. C'est eux qui font tourner le pays. Et là, dans une crise telle qu'on va la vivre, on va s'apercevoir combien.
Mais Olivier a raison, combien est haute leur importance.
Et on ferait bien, de s'y intéresser, alors même qu'on a un État qui actuellement nous parle de croissance forte, nous parle de plein emploi, etc., etc., alors qu'on a un mur qui nous arrive à 300 à l'heure dans la salle proche.
On va écouter Marco qui nous appelle de Charente-Maritime. C'est lui qui aura le mot de la fin. Bonjour Marco.
Bonjour Marco.
Oui, bonjour.
Patron de cabaret du côté de la Charente-Maritime, de Saintes. En difficulté, vous aussi, Marco? Solidaire des bouchers, charcutiers, boulangers, restaurateurs et autres?
Mais on est dans le même cas de figure. Hein. Moi, mon tarif électrique augmente de 311% au 1er janvier.
311%.
Voilà. Donc je vais passer de 14 centimes à 58 centimes.
Une course aux enchères.
Et comment vous allez faire?
Je voulais simplement dire quand même qu'il y a un amortisseur de 25% qui est quand même de la poudre aux yeux, parce que l'amortisseur de l'État, il commence à un prix plancher de 32 centimes. Donc moi, je paye 14 centimes aujourd'hui. Donc de 14 à 32 centimes, j'ai déjà 130% d'augmentation. Et l'État ne veut même pas en entendre parler. Donc quand j'ai fait le calcul de l'aide de l'État sur la partie au-delà, et ben finalement, ma facture elle va augmenter de 271% après l'aide de l'État.
Merci. Est-ce que vous pourrez continuer votre activité ou pas, Marco?
Alors, oui, je vais continuer mon activité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est moi qui vais les mettre dans ma poche.
Ah ouais, non, mais...
Mais combien de temps?
Vous puisez dans vos réserves.
Combien de temps? Ben, je dirais, on va dire dans un premier temps, 6 mois, parce que j'ai appelé l'EDF. J'ai une conseillère qui m'a dit, vous déposez votre compteur jaune, qui est à 48 kilos, et puis vous faites mettre deux compteurs de 36, et comme vous serez protégé. Billet tarifaire à plus 15. Seulement Enedis.
Contourner la ristourne, quoi.
Tout à fait. Seulement Enedis, il va demander 4 mois pour faire les travaux. Après, il faut faire venir Veritas pour le contrôle, le consuel, etc. Vous voyez un petit peu l'histoire. Donc, on peut le faire que quand on est fermé, c'est-à-dire au mois de juillet. Parce que nous, on ne peut pas fermer l'hiver. Le cabaret, c'est une affaire d'hiver.
Comment il s'appelle, votre cabaret?
La Castafiore.
La Castafiore. Et c'est où précisément?
À Saintes.
C'est à Nantillet. Alors, c'est un petit bled, c'est Nantillet. En pleine campagne. C'est entre Saint-Jean-d'Angély et Cognac.
Eh bien, mon cher Marco, c'est vous qui aurez conclu notre discussion. On va passer voir Marco à la Castafiore, justement.
On va faire un déplacement là-bas.
On fera une soirée DGG. Qui sait, Marco, à bientôt. Bah,
surtout avec Didier qui est déjà habillé en tenue de soirée.
Et Sarah qui peut faire un petit numéro.
Oui, bah oui.
Et Jérôme aussi, le numéro de la femme complète, il sait faire. Oui. Aussi, la prestidigitation. Et après, il recoue, il fait tout bien. Le boucher, boulanger, poissonnier, restaurateur, gérant de cabaret. Bref, tous ceux qu'on a écoutés. Faut-il un quoi qu'il en coûte? La question est posée.
C'est
un oui qui l'emporte, mais c'est pas un oui franc.
Les gens se rendent compte que c'est pas la solution.
L'échec
de l'État, ça sera pas une solution.
L'échec, il faut bien payer.
Allez, dans un instant, 52% des Français qui préfèrent offrir un cadeau de Noël à leur animal plutôt qu'à un membre de leur famille. On s'en fout ou on s'en fout pas? C'est l'OSEF qui arrive avec notre productrice Anaïs Sain.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules, avec aujourd'hui Jérôme Marty, médecin généraliste, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, et Sarah Salman, avocate. De quoi voulez-vous que nous parlions ensemble tout à l'heure à 11h dans le À vous de choisir? De l'explosion des paris sportifs en ligne à l'occasion de la Coupe du Monde. Alors il y a une addiction là, c'est attention, danger. Ou de la pédopornographie avec le maire d'Échenon en Côte d'Or, là en Bourgogne. Il a été pris, donc vous savez, dans le coup de filet de anti-pédopornographie, pédocriminalité. Il y avait sur son ordinateur des photos pédopornographiques, mais il ne veut pas démissionner. Il dit, moi, je démissionnerai de mon mandat de maire qu'après mon procès. Voilà. De quel sujet voulez-vous que nous parlions ensemble? Il y a la présomption d'innocence. Rendez-vous sur rmc.fr, vous votez. Et on en parlera tout à l'heure. En attendant, c'est le OSEF. C'est-à-dire, on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
C'est avec notre productrice Anaïs Sainz. Bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. La centrale à charbon de Saint-Avold redémarre. Elle devait fermer définitivement, mais face au risque de coupure de courant, elle a été remise en route hier, et ce, en dépit de la pollution. Est-ce qu'on s'en fout ou on s'en fout pas, Sarah?
On s'en fout.
Jérôme?
On s'en fout. Hein.
Didier?
Je m'en fous pas du tout.
Alors?
Non, je m'en fous pas du tout. Parce que quand le président rentre en jet privé de la COP27 et a signé le fait qu'on va sortir des énergies fossiles, et que parce que ça fait 10 ans qu'on ferme des centrales nucléaires, qui est une énergie décarbonée,
On va rouvrir une centrale à charbon qui était fermée depuis le mois de mars. On court après les salariés qu'on a foutus dehors comme des malpropres.
Oui, c'est vrai.
Et on va faire cramer du charbon pour produire de l'électricité. Non, on s'en fout
mais
pas.
Mais c'est quoi la solution,
parce que,
alors?
Parce que ça veut dire quand même qu'on est des gros nuls en termes de vision énergétique de la France depuis 10 ans. Voilà. Et puis parce qu'on a donné le change à ces cons d'écolos qui voulaient fermer les centrales nucléaires, eh ben, on est dans la merde aujourd'hui. Et le sujet d'avant est une conséquence du fait qu'on est rentré Nicolas Hulot au gouvernement et ça nous a mis dans la merde. Voilà, et ben on y est.
Il fallait le lancer.
Il a tout dit.
Alors, les GG, 52% des Français préféreraient offrir un cadeau de Noël à leur animal plutôt qu'à leurs enfants. On s'en fout, on s'en fout pas. C'est un
on s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Non, on s'en fout pas, non.
Pitié.
Ouais, on s'en fout pas pour participer au débat.
Sarah.
Moi, j'offre de beaux cadeaux tous les ans. L'an dernier, non, il y a deux ans, j'ai offert
à qui?
À mon chihuahua qui s'appelle Triomphe, j'ai offert une Gamelle Carl Lagerfeld en cuir.
Non, non.
C'est vrai.
Vous voulez la photo?
On va la donner et puis on va la prendre.
Donc j'ai offert cette Gamelle Lagerfeld. J'offre souvent de très très beaux cadeaux. Alors je le rappelle pour nos.
De plus beaux cadeaux à ton chien qu'à tes amis?
Largement.
Il passe avant tous les autres.
Bien sûr. Lui s'en fout. Et en fait, l'an dernier, j'ai eu une révélation. Vaut mieux offrir du saumon fumé, de la bouffe, plutôt que des cadeaux.
Oui, j'ai une gamelle.
Ouais,
il s'en fout.
Non, attends, j'ai pas fini. J'aimerais dire aussi aux auditeurs de pas acheter des manteaux et de ne pas déguiser son chien quand c'est l'hiver. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ça va faire bien, c'est une forme de maltraitance animale que d'habiller son animal et de mettre des chaussures. Même si Montclair a fait une très belle gaffe.
On confond l'animal avec l'homme, en fait.
Oui, mais c'est débile.
Ouais. Didier, tu offres des cadeaux à tes vaches?
Non, mais ce que je viens d'entendre est pathétique, quoi.
Oh, mais de quoi tu parles là? Mais t'es quoi avec tes vaches?
L'humanisation.
C'est
ce qui me gêne là-dedans, c'est l'humanisation de l'animal, quoi. Quand l'animal, et c'est tout le débat sur la condition animale, c'est quand l'animal devient l'égal de l'homme et que on inscrit ça dans la Constitution, ça devient un vrai problème pour la vie sereine de l'humanité. Enfin. Tous les débats qui découlent
de
la cause animaliste,
de quoi tu parles?
Ça part de là. Ça part du fait qu'un animal est l'équivalent d'un homme.
C'est pas faux, tu fais des concours de beauté de tes vaches.
Et alors?
Elles ont rien demandé, tes vaches.
En fait.
Ben, mes vaches, elles sont là pour produire.
Oui, non, mais et des concours de beauté, wesh.
Et alors?
C'est la même chose, je suis humaniste, la vache.
Jérôme, t'as un chien aussi.
Tu peux le traduire comme ça, mais c'est pas du tout.
Non, mais souvenez-vous de la phrase de Coluche.
Tu fais des cadeaux à tes chiens ou pas, toi?
Ça m'est arrivé.
Ça m'est arrivé parce que
tu sais que quand tu as, notamment au pied du sapin, quand tu as les enfants qui sont petits et que tu as plein de cadeaux et que tu as un chien, il faut donner aussi un cadeau au chien pour pas qu'il devienne neurasthénique, quoi. Donc, il faut le faire. Mais souvenez-vous de la phrase de Coluche qui disait, ces gens qui ont des enfants parce qu'ils peuvent pas avoir de chien.
Oui.
Et là, on est un peu là-dessus, quoi. Moi, ce qui me gêne, c'est le, préfèrent offrir un cadeau à leur animal plutôt qu'à leurs enfants, en fait.
Ça dit quelque chose des relations.
Ça dit surtout quelque chose de la dérive de notre société, quoi. Qui est dans une espèce. On devient anglo-saxon. Parce que c'est très anglais, ça, hein.
Oui.
C'est très anglais. Tu peux avoir une catastrophe ferroviaire, un truc horrible. Il y a un chien dont l'ongle a sauté. Le reportage est plus important à Londres.
Ah oui.
C'est ça. Si on a envie d'aller dans cette société, moi, c'est pas la mienne.
Merci, tu finis bien, t'étais mal parti.
Vas-y, continue, Anaïs.
Les GG, la billetterie des JO 2024 ouvre après-demain, ce jeudi. On s'en fout, on s'en fout pas. 3 millions de billets disponibles par tirage au sort. S'en fout.
Non, je m'en fous pas, moi.
Non plus. Vous allez tenter votre chance?
C'est surtout que ce qui est gênant là-dedans, c'est que c'est un tirage au sort, quoi.
Un tirage au sort pour pouvoir ensuite acheter ton billet.
Exactement.
C'est un tirage au sort pour pouvoir payer. Je trouve que c'est, et puis l'agencement du truc, soit tu prends des packs pas chers et tu te retrouves à aller voir le patinage artistique, le canoë et kayak et le breakdance.
Non, tu indiques tes sports préférés.
Non, mais voilà, c'est des packs.
Trois sports préférés
C'est des packs. Non, mais le système du tirage au sort pour pouvoir payer, quelque chose qui me gêne.
D'accord.
Mais je peux comprendre qu'on soit submergé de demandes. Mais
tu as 20 ou 25% des billets qui sont déjà réservés pour les sponsors,
pour les amis d'Annie
des JO.
On pourrait peut-être taper là-dedans aussi.
Ils ont casqué. Ils disent c'est normal qu'en retour ils aient quand même des billets.
Non, mais ça c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui serait gênant, c'est que l'autochtone ne puisse pas participer à la
Oui, mais là, le problème, c'est qu'il y a la masse qu'il faut gérer.
Ah bah voilà.
Et donc, le truc qu'ils ont trouvé, c'est ce tirage au sort. Et ensuite, tu auras le droit d'acheter un billet, ça sera en février.
Et peut-être le moins mauvais des systèmes, ou le système le plus égalitaire, en tout cas, quoi. Mais ça induit aussi le
Ils
fait
que
peut-être
ce système va faire jurisprudence et que dans toutes les autres grandes organisations sportives ou autres, on fera ça aussi.
C'est possible, mais dans beaucoup de réalisations sportives, tu as non seulement les sponsors, mais tu as les clubs, etc., qui ont des places en priorité par rapport aux autres. Oui. Si tu prends le rugby, par exemple, tu as les tribunes des stades sont remplies en grande partie par la Ligue,
Roland-Garros,
par les écoles, etc. Et c'est en quelque sorte normal.
Ouais, dans un club,
mais là, sur les Jeux Olympiques, qui est un événement qui arrive dans un pays tous les 25 ans ou 30 ans, est-ce qu'on a mal dimensionné le truc? Est-ce qu'on a si on en est maintenant vite à dire il faut tirer au sort, ça me paraît curieux.
On continue.
Et la fin des emballages jetables dans les fast-foods, les GG au 1er janvier 2023, fini les boîtes en carton des burgers ou les gobelets en papier.
Comment on va faire?
Ce sera tu achètes en fait. Tu achètes tes couverts. Non, tu achètes tes couverts réutilisables comme ça existe déjà.
On s'en fout pas.
Ouais, on s'en fout pas.
Le problème est de savoir si ce que.
T'en fous ou pas?
Le problème, non, je m'en fous pas. Non.
Tu t'en fous pas.
Ouais, vas-y.
Non plus.
Je m'en fous pas. Bon.
Non, là,
il a fond là.
Je disais le problème est de savoir si ce qui pollue le plus dans le burger, c'est l'emballage ou le burger lui-même, quoi.
Non, mais ils font des emballages.
C'est une bonne question. Ouais. Non, après, tu vois, mes parents habitent au bord d'une route départementale, à peu près à 21 minutes d'un McDrive. Et mon père ramasse tous les lundis matin tonnes et des tonnes de parce que les gens balancent par la fenêtre et je trouve que ce marketing qu'il y a sur l'emballage devrait faire en sorte que ces enseignes-là soient impactées financièrement par rapport à l'emballage. Je présume que c'est le cas pour qu'ils en arrivent là, quoi.
Bah, de toute façon, c'est terminé à partir de.
Il y a des solutions aujourd'hui, quoi. Emballer des hamburgers dans une boîte en amidon qui se décompose.
C'est ça.
Ça existe, quoi.
La vaisselle réutilisable et lavable dans les restaurants que vous achèterez.
Voire en amidon. Et ensuite, on la garde.
Comme ça existe déjà un peu sur Paris, on achète.
Mais le problème, quand même, c'est que les Français sont des porcs, quoi.
Merci, Anaïs. On te retrouve tout à l'heure pour le quiz des GG, le quiz des grandes gueules à 11h20. Dans un instant. Les députés qui ont commencé l'examen de la nouvelle loi anti-squat et anti-loyer.
Les députés fatigués, rappelons-le.
Impayés. Il faut défendre les propriétaires. Voilà le credo du gouvernement soutenu par l'Assemblée nationale et les Républicains. Sauf que les associations qui défendent le logement disent non, on se trompe. Là, on va fabriquer en fait des SDF et cette nouvelle loi va mettre des gens à la rue. Alors, est-ce que le gouvernement a choisi le camp des propriétaires plutôt que celui des précaires? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.